J'ai des taches pigmentaires.
J'ai des hémorroïdes.
Je fais des pets vaginaux.
Je ronfle beaucoup.
J'ai des petits problèmes de fuite urinaire.
J'ai mauvaise haleine.
J'ai une mycose, j'ai des verrues.
J'ai des problèmes d'érection.
Consulte, c'est le podcast d'Easy Para qui répond à toutes vos questions sur les maux du quotidien. Vous savez ce que vous avez un peu honte d'aborder avec votre pharmacien? Sans tabou, on en parle avec des professionnels de santé. Bonjour et bienvenue dans Consulte, le podcast sans tabou d'Easy Para. Les troubles de la statique pelvienne ont souvent de lourdes conséquences physiques et psychologiques sur la qualité de vie de celles qui en souffrent. Entre 11 et 19% des femmes risquent de développer un trouble du périnée au cours de leur vie et environ 11% des femmes auront recours à la chirurgie pour le traitement du prolapsus, plus communément appelé la descente d'organes. Vous l'aurez compris, nous allons parler de périnée dans cet épisode, ce muscle qui pose bien des soucis aux femmes. Et on en parle avec notre invitée Camille Tallet, qui est sage-femme. Bonjour Camille.
Bonjour.
Évidemment, je serai comme toujours accompagnée de Nathalie, notre experte santé et beauté chez Easy Para.
Bonjour à tous et bienvenue.
Je vous précise aussi que cet épisode a été réalisé en partenariat avec le laboratoire Millet, des soins et compléments alimentaires pour accompagner notre corps à retrouver son état d'équilibre de la puberté à la ménopause. On va commencer notre épisode et Camille, première question toute simple, pouvez-vous vous présenter ?
Avec plaisir. Donc moi, je suis sage-femme et ostéopathe. Je suis spécialisée dans la prise en charge des douleurs gynécologiques. Donc effectivement, toute la sphère du petit bassin et donc du périnée. J'ai la chance d'être la présidente d'une association qui s'appelle Périnée Bien-Aimée, qui est une association qui œuvre pour la promotion et le diagnostic des douleurs vulvaires et gynécologiques. Et co-autrice d'un livre qui s'appelle « Au bonheur des vulves ».
On va essayer vraiment d'être le plus exhaustif possible autour de ce sujet. Le périnée, qui, je le disais en introduction, pose vraiment beaucoup de soucis aux femmes, particulièrement après une grossesse, mais pas que, c'est pour ça. Donc on va vraiment aborder voilà, tous les sujets, essayer de répondre un maximum à vos questions. Et on va commencer tout simplement par la définition du périnée. Le périnée, finalement, c'est quoi d'un point de vue morphologique ?
Alors, le périnée, c'est un ensemble de muscles qui vient fermer la cavité abdominale par le bas. Donc en fait, c'est un grand muscle qui ressemble à un trampoline parce qu'il se contracte et il se relâche à chaque fois que nous respirons de manière complètement involontaire. C'est l'organe qui soutient tout ce qui est à l'intérieur du corps. Et puis, c'est un organe qu'on va pouvoir contracter ou relâcher de manière spontanée quand on a soit envie de se retenir des gaz, des selles, des urines, soit envie pour le coup d'aller aux toilettes. Et c'est un organe qui va aussi avoir un impact dans la sexualité, puisqu'on va pouvoir s'en servir pour plus ou moins ressentir des choses au niveau de la vulve, de l'anus, du périnée.
Et je trouve que c'est un organe qui est assez mystérieux, j'ai envie de dire, parce que finalement, la plupart des femmes le découvrent seulement quand elles sont enceintes.
Alors, en effet, c'est un organe qu'on découvre plutôt pendant la grossesse, mais j'ai envie de vous dire, vous ne connaissez pas tellement mieux vos trapèzes ou vos quadriceps, qui sont d'autres muscles de votre corps. Donc, c'est vrai qu'on aurait mérite à certainement connaître son périnée un peu mieux, mais j'ai presque envie de dire, on aurait mérite à connaître surtout toute la zone pelvienne, c'est-à-dire notre vulve, notre anus et en dessous notre périnée.
Est-ce que vous voudriez dire que si on connaissait un peu plus en amont toute cette zone pelvienne, ça nous aiderait finalement à mieux maîtriser notamment le périnée quand on sait que les problèmes vont arriver ?
Alors, de toute manière, la méconnaissance, c'est un problème, on est bien d'accord, donc on va parler plutôt positivement. C'est sûr que si on faisait ce qu'on pourrait appeler de l'éducation périnéale ou peut-être ce qu'on pourrait appeler aussi de l'empowerment vulvaire, c'est-à-dire connaître sa zone vulve, sa zone anus, sa zone périnée dès le plus jeune âge. Si on avait connaissance de comment on fait pour se laver correctement, comment on fait pour entretenir toute cette zone pelvienne correctement, bien sûr que on n'éviterait pas forcément tous les problèmes. Par contre, quand les problèmes arriveraient, on aurait certainement des solutions. Donc évidemment que faire de l'éducation périnéale semble être bien plus intéressant que derrière prendre en charge des problèmes, que ce périnée soit douloureux, hypertonique ou au contraire hypotonique.
Camille, j'ai une question. Est-ce que les hommes ont un périnée ?
Les hommes ont exactement le même périnée que nous, à un trou près, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que nous, on a un orifice urinaire, un orifice vaginal et un orifice anal. Et les hommes ont un orifice urinaire et un orifice anal. Mais ce muscle du périnée, il est strictement le même.
Et est-ce que finalement, ces fuites urinaires, les hommes seront soumis aussi à ce problème ? Ou finalement, c'est un problème extrêmement féminin ?
Alors, c'est pas un problème féminin. Ce qu'il y a simplement de différent entre les hommes et les femmes, c'est que nous, au-dessus de notre vessie, on a un utérus. Donc, on a notre vessie, puis on a notre utérus qui appuie, qui se repose sur notre vessie. Donc, effectivement, quand on a des problématiques utérines, on peut avoir quelque chose qui va peser plus sur notre vessie, à la différence des hommes. Mais les hommes, ils ont d'autres problématiques avec notamment leur prostate qui peut générer des soucis urinaires. Donc, on est logé à la même enseigne, que ça soit dans les douleurs comme dans les fuites.
Donc, on en vient à parler de la grossesse, puisqu'on parlait de l'utérus. Moi, j'ai des questions en fait de femmes qui ont déjà accouché, qui n'ont pas prévu quoi que ce soit pour leur périnée, et elles sont démunies de réponses.
La grossesse, du fait donc que cet utérus va grandir, peser plus lourd, effectivement, ça va appuyer sur notre vessie. Donc, ça a comme conséquence que pendant la grossesse, on va aller peut-être plus régulièrement aux toilettes, puisqu'on aura notre vessie, elle aura moins de capacité à se distendre et donc à garder beaucoup de liquide à l'intérieur. Et puis, la deuxième conséquence, c'est comme il y a un peu plus de poids, ce périnée qui normalement doit pouvoir bien se contracter pour faire la continence, empêcher les petites fuites, il aura peut-être un peu plus de difficultés. Donc, on a peut-être parfois un petit peu plus de fuites urinaires. Ce n'est pas du tout une fatalité. D'abord, ça peut se prendre en charge pendant la grossesse. On peut mettre en place des exercices pour apprendre à mobiliser son périnée pendant la grossesse. Encore une fois, j'aime parler d'éducation périnéale. Donc, pendant le temps de la grossesse, vous pouvez solliciter votre sage-femme, votre kinésithérapeute pour apprendre des mouvements, pour pouvoir aider à se retenir, aider à garder un périnée qui soit efficace. Je n'ai pas dit tonique ou hypertonique, j'ai dit efficace. Et après, effectivement, dans le post-accouchement, je crois qu'il faut être un petit peu indulgent pendant les premiers jours, c'est-à-dire la patiente ne doit pas se faire pipi dessus, pas du tout. C'est qu'il peut y avoir 2-3 jours où le corps est un petit peu à travailler, le bébé est passé, et donc on peut avoir un peu d'œdème, les tissus répondent un petit peu moins facilement. Donc pendant quelques jours, on va être un peu laxiste. On va dire, bon, ok, peut-être pendant quelques jours, c'est pas grave s'il y a des fuites urinaires. Par contre, assez rapidement, la patiente pourra reprendre des exercices pour mobiliser son périnée et de nouveau être continente de la bonne façon. Si jamais elle avait des problèmes, elle pourrait bien sûr consulter des sages-femmes, des kinésithérapeutes pour l'aider dans sa rééducation périnéale.
J'ai l'impression qu'on est toutes inégales face à la réaction, on va dire, de notre périnée pendant une grossesse.
Si on parle des sportives, les sportives de haut niveau, ou en tout cas les sportives qui font du sport 4-5 fois par semaine, évidemment, leur périnée, comme tous les autres muscles de leur corps, il est plus contracté, il est plus tonique. Elles sont capables certainement de le contracter de manière plus efficace. La question, c'est est-ce qu'elles sont capables aussi de le relâcher ? Parce qu'en fait, là, on ne parle que de tonicité périnéale. Or, un périnée efficace, c'est un périnée qui sait autant se contracter que se relâcher. Donc, c'est pour ça que les sportives, comme toutes les autres patientes, il faut s'assurer d'une bonne mobilité périnéale plutôt que d'une bonne tonicité périnéale. Et ensuite, à part des pathologies de tissus conjonctifs où on serait très laxe, il n'y a pas de raison qu'une femme ait plus de problèmes qu'une autre. La question, c'est de la prendre à l'instant T en demandant « Madame, est-ce que vous êtes gênée par quelque chose ?» Et donc, on prendra en charge cette patiente, qu'elle soit gênée par des douleurs, qu'elle soit gênée par un périnée trop tonique ou par un périnée qui a du mal à se contracter.
Oui, parce que c'est vrai que là, on a parlé juste des gènes, on parlera un peu plus tard des douleurs qui peuvent être ressenties. Moi, je voulais aussi qu'on revienne sur l'accouchement. Est-ce que forcément un accouchement par voie basse va davantage solliciter le périnée ou en fait ça n'a rien à voir?
En fait, c'est la grossesse qui sollicite le périnée.
C'est vraiment c'est la grossesse. Ouais.
Mois, voilà, c'est les 9 mois à porter un être humain ou plusieurs êtres humains qui pèsent du poids et donc cet utérus qui s'allonge sur la vessie, appuie sur la vessie, ça tire sur les ligaments qui suspendent la vessie et donc ça peut faire que on ait des problématiques urinaires dans le postpartum, donc des problématiques du sphincter de la vessie ou des problématiques d'un périnée qui serait trop relâché. Donc la grossesse a un impact. Donc ça veut dire que finalement, le mode d'accouchement, oui, peut impacter bien sûr, mais c'est surtout la grossesse qui va impacter. Donc une fois qu'une patiente a accouché, peu importe son moyen d'accouchement, on va la questionner sur savoir, madame, est-ce que vous êtes gênée? Et donc, dans les gènes, on va lui demander, est-ce que vous avez des fuites urinaires? Est-ce que vous avez des pesanteurs au niveau du périnée? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir du mal à contracter ou à relâcher votre périnée? Est-ce que vous avez des douleurs dans la reprise de la sexualité ou dans la vie de tous les jours? Ou est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas comme avant?
Est-ce que finalement les hormones auront une influence finalement sur cette tonicité et cette mobilité du périnée?
Alors, le périnée, il n'est pas du tout sous la dépendance hormonale. Donc, non. Le périnée, c'est plus ce qui va avoir des conséquences sur le périnée, c'est plutôt la vie de tous les jours. C'est-à-dire que selon le travail que vous faites, selon l'activité physique que vous faites, eh ben vous sollicitez plus ou moins votre périnée. Les hormones et donc l'âge ou les phases de la vie vont avoir des actions, des conséquences plutôt sur les tissus, donc les muqueuses ou les périmuqueuses. Donc par exemple, autour du sphincter du méa urinaire, il y a des tissus qui sont sous la dépendance des hormones et donc on peut avoir un méa urinaire plus sensible quand on est dans des phases de carence œstrogénique, donc par exemple dans le post-accouchement, notamment avec des allaitements maternels, ou en périménopause, ménopause.
Ok, donc on est vraiment sur quelque chose de mécanique. Oui. Est-ce qu'on peut parler des descentes d'organes? Comment ça arrive? Qu'est-ce qui se passe?
Effectivement, dans cette zone pelvienne, il faut comprendre qu'il y a plusieurs types de tissus. Plus il y a des organes, donc l'utérus, la vessie, le rectum, qui sont des organes, donc par exemple pour la vessie et l'utérus, qui sont suspendus, qui ont des ligaments, donc qui peuvent potentiellement glisser, puisque les ligaments peuvent s'être étirés, soit à cause de pression due à des grossesses, soit à cause de pression due à un travail, un sport, etc., etc. Donc on peut avoir ce qu'on appelle des prolapsus, des descentes d'organes, c'est-à-dire la vessie qui glisse un peu, l'utérus qui glisse un peu ou le rectum qui glisse un peu vers l'extérieur. Ça, ce sont des choses qu'on va prendre en charge donc en premier par de la rééducation périnéale et puis peut-être on pourra être amené à faire de la chirurgie. Et ensuite, vous avez donc un autre type de tissu, c'est le muscle du périnée. Ce muscle-là, comme tous les autres muscles du corps, eh ben, il peut être trop contracté et donner des douleurs quand on vient mettre quelque chose à l'intérieur du vagin, puisque s'il est trop contracté, il va fermer physiquement l'entrée du vagin. Ou il peut entraîner, par exemple, des constipations parce qu'il est trop contracté et que les selles ne peuvent plus être éliminées. Donc, il y a ce périnée qui peut être trop tonique ou ce périnée qui peut être hypotonique, c'est-à-dire que si on a mis beaucoup de pression dessus, eh ben, il aide moins à la continence, c'est-à-dire qu'il a moins de facilité à se contracter pour aider à retenir les urines ou à retenir les selles.
Okay. Vous parlez du coup de la descente d'organes. Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver très rapidement après une grossesse ou c'est plutôt plusieurs années après? Est-ce qu'il y a un âge pour ça? Est-ce que la femme a un ressenti physique?
De toute manière, la femme a très souvent un ressenti, ça c'est sûr, et c'est d'ailleurs le point d'entrée de la consultation. Mmh. C'est la patiente qui va sentir une pesanteur pelvienne qu'elle n'avait pas, où elle va ressentir des différences dans son jet urinaire, par exemple, qui est plus droit et continue, où elle va sentir qu'elle a plus de mal à retenir des gaz, des sels, des urines. Donc, c'est pour ça que cette patiente va consulter. Après, de là à dire qu'il y a un élément déclencheur, un âge particulier, non. Je crois qu'on peut avoir malheureusement des fuites urinaires un peu tout le temps au cours de sa vie. Et c'est d'ailleurs même bien de ne pas généraliser, puisque la patiente qui vient vous dire « moi, j'ai une sensation de pesanteur pelvienne », elle a donc une sensation de pesanteur pelvienne. À nous de faire les bilans, l'interrogatoire, pour savoir si c'est effectivement une descente d'organes ou un problème de périnée.
Camille, on va du coup enchaîner avec la partie rééducation. Donc, vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose qui se fait tout de suite après la grossesse. Et surtout, il y a plusieurs formes de rééducation. Parfois, on est conseillé d'aller voir une sage-femme. Parfois, on va nous conseiller d'aller voir un kiné. Et c'est vrai que les femmes peuvent être un peu perdues là-dedans. Parce que surtout, elles ne savent pas trop ce qui leur arrive, c'est quelque chose de nouveau. Et après une première grossesse, on est un peu, pour l'avoir vécu, on est un peu perdu.
Alors, effectivement, dans un monde idéal, les patientes auraient eu une consultation en éducation périnéale, que ce soit avec une sage-femme ou avec un kiné, pendant la grossesse. L'idée serait que la patiente connaisse très bien le fonctionnement de sa vulve, de son périnée, qu'elle sache contracter et relâcher pendant la grossesse, pour qu'elle puisse mettre en place cet exercice de mobilisation du périnée dès le postpartum immédiat. Parce qu'on sait que si on contracte et on relâche un muscle, on fait un apport de sang qui va donc permettre, par exemple, mieux la cicatrisation dans le postpartum, et le retour veineux emmène les toxines. Donc, par exemple, s'il y a un œdème, s'il y a un hématome, un bleu, eh ben, il va plus vite se résorber si la patiente met en mouvement son périnée dans les jours qui suivent l'accouchement. Encore faut-il qu'elle sache le faire. C'est ça. Ensuite, ben, on n'est pas forcément dans ce monde merveilleux d'éducation périnéale. Et donc, la patiente, on va lui proposer un suivi dans le post-accouchement. Donc, c'est les sages-femmes ou les médecins qui vont suivre la femme dans le postpartum pour surveiller comment se remet cette patiente de son accouchement et puis le suivi du nouveau-né. Et donc, à ce moment-là, on pourra interroger la patiente sur ses symptômes. Est-ce qu'elle ressent des pesanteurs? Est-ce qu'elle ressent des fuites urinaires, des fuites de gaz, des fuites de sel ou tout autre symptôme au niveau périnée et vulve? Et donc, à ce moment-là, pourra être proposée une rééducation périnéale, que ce soit avec la sage-femme ou avec la kiné. Et il existe beaucoup de méthodes différentes de rééducation périnéale. Donc, la patiente devrait pouvoir trouver quelque chose qui lui convienne et fonctionne pour son problème.
Oui, parce que là aussi, j'ai envie de dire, c'est quand même compliqué, sans forcément parler d'un cas personnel, mais on nous parle de sondes. Je sais qu'il y en a qui se font manuellement aussi. Quelle serait votre méthode de prédilection, s'il en existe une ?
Eh bien, la réponse, c'est ça, c'est qu'il n'en existe pas. D'accord. Il y a un certain nombre de méthodes pour s'adapter à un certain nombre de patientes. Et c'est la beauté de la rééducation périnéale, c'est que plein de techniques existent pour le même objectif, c'est-à-dire que la patiente se sente confortable dans son corps. Donc, une patiente pourra très bien commencer avec, j'ai envie de dire, le professionnel de santé le plus près de chez elle pour que ça soit le plus facile pour elle à partir du moment où ça lui correspond, que ça soit un travail avec de la sonde manuelle, des exercices au sol, de la visualisation, des sifflets. Enfin, je ne pourrais pas citer toutes les méthodes qui existent, ne les connaissant certainement pas toutes, mais l'important, c'est que ça soit efficace assez rapidement, c'est-à-dire qu'une patiente qui éprouve des pesanteurs ou des fuites urinaires, des fuites de gaz, des fuites de sel, on va dire que dans un laps d'une dizaine de séances, elle doit voir une amélioration. Sinon, eh bien effectivement, soit le professionnel de santé change de méthode, soit le professionnel de santé va orienter vers quelqu'un d'autre pour prendre en charge cette patiente.
Alors du coup, on va peut-être en profiter pour prendre la question de la communauté.
Donc j'ai 46 ans et en fait j'ai de plus en plus de soucis, on va dire, de petites fuites. Donc dès que j'éternue, j'ai du mal à me retenir. Et c'est vrai que ça m'handicape assez. J'ai fait de la rééducation il n'y a pas très longtemps avec une kiné. Le problème, c'est que ça revient très très vite. Donc ça m'a un peu améliorée, mais ça revient très vite. Et c'est vrai que je suis un peu désespérée. Et voilà, donc je ne sais pas si vous avez d'autres solutions.
Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à cette dame ? Et je pense que c'est un problème qui revient souvent, même quelques années après la grossesse, l'accouchement et les périodes de rééducation.
Alors, c'est extrêmement difficile de répondre à une question sans avoir la possibilité d'interroger la patiente sur son historique, quel type de fuite elle a, comment ça se passe et puis qu'est-ce qu'elle a déjà fait. Mais ce qu'on peut répondre à cette patiente, c'est que déjà de un, on entend sa plainte, effectivement. Elle a des difficultés à se retenir alors qu'elle a déjà fait une rééducation. Il semble qu'elle ait des difficultés à se retenir quand elle n'est plus dans des phases de rééducation. Donc peut-être que cette patiente, elle a besoin d'avoir des exercices qu'elle va pouvoir utiliser plus dans son quotidien pour continuer la rééducation qu'elle fait avec la sage-femme. Donc moi, j'aurais tendance à dire à cette patiente déjà de 1, de retourner consulter son professionnel de santé pour lui demander est-ce que ça vaut le coup de refaire de la rééducation, de faire une autre méthode, en tout cas d'essayer de comprendre pourquoi, dès que la rééducation s'arrête, cette patiente de nouveau a des fuites urinaires. Et puis d'un autre côté, de toute manière, il existe tellement de méthodes, tellement de professionnels de santé différents que j'ai envie de dire à cette patiente que, bien évidemment, il faut continuer à travailler son périnée en étant accompagné parce qu'il n'y a pas de raison qu'à 40 ans, on n'arrive pas à régler ce problème de fuite urinaire. Après, attention, hein, ce n'est pas de la rééducation à tout prix. C'est-à-dire que si on a essayé 2-3 méthodes en étant observante, ça veut dire qu'on a bien fait les exercices qu'on nous a demandé de faire, on a été bien régulier dans les rendez-vous, eh bien, si jamais ça ne fonctionne pas, il ne faut pas hésiter à aller consulter un urologue pour savoir si on ne serait pas candidate à de la chirurgie. Ouais. Et j'en profite aussi pour parler d'une méthode dont on ne parle pas beaucoup, qui sont les PCR. C'est des dispositifs qu'on peut mettre dans le vagin qui permettent de soutenir la vessie et l'utérus. C'est un dispositif auquel il faut penser quand il y a certaines fuites urinaires, notamment à l'effort.
Et qu'est-ce que vous pensez justement des sondes périnéales qu'on peut acheter en parapharmacie et des boules de gaïcha par exemple aussi? Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous pouvez conseiller au quotidien?
Alors, je pense que toute méthode est très bonne à partir du moment où on a bien étiqueté quel était le problème et est-ce que cette méthode répond à ce problème-là. Je pense que la sonde à la maison, c'est une très bonne chose à partir du moment où la patiente a été bilantée par une sage-femme ou un kiné pour s'assurer que ça sera la bonne méthode. C'est une méthode très complémentaire de ce qu'on peut proposer dans nos cabinets. Donc, moi, je suis tout à fait pour. Je ne pense pas qu'il faille le faire forcément en solo. Je pense qu'il faut en tout cas avoir au moins une ou deux séances d'accompagnement, mais qu'après, c'est un très bon complément de ce qu'on peut proposer en tant que rééducateur. Après, les boules de gaïcha, en fait, les boules de gaïcha, c'est surtout de l'éducation sur le muscle du périnée. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut soutenir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, pourquoi pas? Encore une fois, c'est sur indication. Je ne pense pas qu'on puisse, que ça soit très intéressant de faire ça en systématique, que ça soit la sonde à la maison ou les boules de gaïcha à la maison.
D'accord. Est-ce qu'on peut faire des bêtises finalement en essayant de se rééduquer soi-même et justement en passant pas par la case gynéco, kiné ou sage-femme et se dire « bon, ben, moi, je vais rééduquer tout ça, j'ai vu sur les réseaux que… » peu importe, j'ai vu une information et du coup, de faire une bêtise avec le périnée.
Alors, faire une bêtise, je ne pense pas, parce qu'il faudrait vraiment faire beaucoup, beaucoup, beaucoup pour faire une bêtise. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup de sources d'informations. Je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque femme est unique et que c'est important de prendre la patiente dans sa globalité. Donc, on va lui poser des questions, effectivement, sur ses fuites urinaires, son confort dans la vie de tous les jours, la qualité de sa sexualité, ses antécédents, ses accouchements. Il y a beaucoup de paramètres qu'il va falloir prendre en compte pour pouvoir mettre en place un protocole personnalisé qui sera certainement le plus efficace pour la patiente. L'exemple que je peux vous proposer qui montre qu'on peut faire erreurs. C'est par exemple une patiente qui aurait acquis, par exemple, 45-50 ans, à qui on dit attention aux fuites urinaires. Hein. Et donc, on va lui dire qu'il faut serrer son périnée tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et bien, cette patiente, elle va pouvoir développer des douleurs, par exemple, au moment des rapports, parce qu'elle est tout le temps en train de serrer son périnée, alors que c'est une aberration de faire ça. Ce périnée, ce muscle, il a besoin autant de se contracter que de se relâcher.
Donc finalement, cette histoire de pédagogie, ça commence aussi avec les tout-petits, quand on va leur expliquer comment on va aux toilettes à l'école, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut s'essuyer. Ça rentre en fait dans ce contexte. Et c'est vrai que nous, mamans, des fois, on se dit bah, c'est tellement naturel que finalement, on ne va pas parler de ça.
Alors, je crois que la supposition de dire que c'est tellement naturel, c'est pas forcément une très bonne supposition parce qu'en fait, c'est tellement naturel qu'en fait, on n'en parle pas. Et donc, en fait, au-delà d'être naturel, c'est même carrément tabou. Mmh. Donc, je crois qu'au contraire, il faut vraiment en parler, vraiment, vraiment en parler. C'est-à-dire que le pipi, le caca, les règles, il n'y a aucun problème. On peut faire pipi, on peut faire caca, on peut avoir ses règles. Il faut en parler de manière spontanée, le plus facilement possible. Et notamment chez les petites filles, il va falloir lever ce tabou de l'excès d'hygiène sur la vulve, de « je ne fais pas caca à l'école parce que ça sent mauvais ou parce qu'on peut m'entendre ». Enfin voilà, je crois que vraiment, c'est des sujets, au contraire, dont il faut plus parler pour que ça soit plus naturel, mais dans le bon sens du terme.
Ouais, ouais, plus libéré. Et je vous propose d'écouter une deuxième question.
Quel exercice conseillez-vous à faire pendant la ménopause pour renforcer son périnée?
Donc là, on est sur une personne qui visiblement a certainement eu des enfants il y a quelques années, qui a peut-être fait sa rééducation, peut-être son périnée allait mieux, arrive la ménopause et elle a encore des petits soucis.
Alors, je pense qu'on va pas spécifier le fait qu'elle ait eu d'enfants ou pas, parce que oui, c'est la même chose. On peut avoir des problématiques urinaires que l'on ait eu des enfants ou pas. La vie de tous les jours, en fait, travaille le périnée comme elle travaille tout autre muscle du corps. On a souvent un corps un peu moins tonique à 70 ans qu'à 20 ans, et ça, c'est la vie qui le fait, encore que des patientes s'entretiennent très bien et c'est pas toujours le cas. Mais l'idée, c'est de se dire que la patiente, si elle ressent une problématique, il faut y répondre. Donc, faire de la prévention périnéale, c'est encore une fois très intéressant, c'est-à-dire qu'une patiente, elle doit savoir que avant de faire un effort, on serre son périnée comme si on se retenait de faire pipi ou de faire caca. Je serre comme si je voulais retenir des gaz ou des sels. Et mon périnée, une fois qu'il est bien gainé, je fais mon effort. Je soulève mon sac de course, j'attrape mon carton dans le placard, je soulève mon enfant. Mais ça, en fait, c'est périnée starter de l'effort. Je serre mon périnée et ensuite je fais cet effort. De la même façon, quand je tousse, j'éternue, je rigole, mon périnée, je le serre et ensuite je tousse. Je serre mon périnée et ensuite j'éternue. Et ça, ce sont des techniques qui vont me permettre de faire de la prévention. Bien sûr qu'une fois que j'ai serré mon périnée et j'ai éternué, après je le relâche. Ce périnée doit être mobile. Après, si à n'importe quel âge de la vie, on a des fuites urinaires, c'est toujours temps de refaire un bilan avec un kiné ou une sage-femme pour essayer de comprendre est-ce qu'on a besoin d'une rééducation ou pas. Mais il faut bien comprendre que la vie de tous les jours, si on a vraiment en tête cette idée que périnée starter de n'importe quel effort, eh ben, la vie de tous les jours maintient un périnée dans la bonne tonicité.
Mais c'est ça qui est compliqué, je pense, parce que ça ramène à ce qu'on disait au départ, c'est que finalement, avant une certaine période de la vie, on n'en a pas du tout conscience, donc c'est tellement pas naturel. Et on nous dit, à partir de maintenant, il va falloir que votre vie, elle change, qu'on ait conscience de se périner à chaque mouvement qu'on fait. Et ça, je pense que c'est le plus difficile.
Ouais, la méthode, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que prendre une nouvelle habitude, c'est 21 jours. Donc, c'est pas long, 21 jours. Oui. Donc, vous allez apprendre que le périnée, c'est pas à tous les mouvements qui doit se contracter. Le périnée, c'est starter de l'effort. Donc, des efforts, combien on en fait dans la journée? Généralement, on en fait parce qu'on va porter des charges lourdes, parce qu'on va tousser, éternuer, rigoler. Et voilà, globalement, c'est les grands efforts qu'on fait dans la journée. Donc, l'idée, c'est de se dire que pendant 21 jours, je vais réfléchir, je vais serrer mon périnée, tousser, je vais serrer mon périnée, porter ma charge lourde. Au bout de 21 jours, la nouvelle information, elle est acquise. Donc, notre vie de tous les jours va faire qu'à chaque fois qu'on va faire un effort, eh ben, notre périnée va se contracter. Et donc, c'est ça qui va maintenir une rééducation au long cours. Donc, c'est pas du tout... C'est à la portée de tout le monde. C'est juste une conscientisation de ce muscle-là.
Moi, j'avais une question. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait absolument tout du périnée ou est-ce qu'encore il y a des découvertes et est-ce que les scientifiques apportent de nouvelles méthodes?
Alors, je crois que si on prend le muscle en lui-même, je pense qu'on sait beaucoup de choses sur ce muscle. Notamment, on sait que c'est un muscle où il y a des fibres lisses et des fibres striées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce muscle, il a des fonctions spontanées de contraction. Je pense pas forcément à contracter et à relâcher à chaque fois que je respire, et pourtant c'est ce qui se passe. Et puis il a des fibres qui lui permettent de d'être sous la dépendance de notre volontaire, c'est-à-dire j'ai envie de faire pipi, clairement je ne peux pas, donc je me contracte pour m'aider dans ma continence. Je crois que on sait aussi pas mal de choses sur tout ce qui est les sutures de ce périnée. Comment on en prend soin, comment on fait de la prévention, tout ça, je crois que c'est des choses qu'on maîtrise bien. Les nouveautés, ça a été vraiment la prise en charge des périnées hypertoniques, parce que les protocoles de prise en charge, ils datent de 2018 sur ces femmes qui éprouvent des douleurs par trop de contractions. Donc ça, ça a été les dernières avancées. Après, les choses qu'on est toujours en train de découvrir, c'est les façons de prendre en charge les incontinences urinaires, les descentes d'organes. Pendant un temps, on a beaucoup posé de bandelettes urinaires. On y revient beaucoup sur ces bandelettes urinaires. Pendant un temps, il y a longtemps, on utilisait beaucoup les PCR. Pendant un moment, on n'a plus du tout utilisé. De nouveau, ça revient. Donc, je crois que de toute manière, comme tout domaine, la science est en perpétuelle évolution. Mais sur le muscle en lui-même, je pense qu'on comprend bien comment il fonctionne.
Camille, nous allons prendre une dernière question de la communauté.
Bonjour. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que l'épisiotomie peut endommager le périnée?
Alors, oui et non, c'est difficile de répondre comme ça. L'épisiotomie, il faut comprendre que c'est un muscle qu'on va couper pour des raisons médicales. C'est un acte chirurgical qui doit être sous l'autorisation de la patiente. Alors, c'est un vaste sujet qu'on pourrait débattre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en France, on a une politique très restrictive par rapport à l'épisiotomie, que c'est un geste maintenant dont on mesure les avantages et les inconvénients et qu'on voit que grâce à ces informations, ces politiques restrictives, on en a de moins en moins. Est-ce une bonne ou une mauvaise solution? Ça, c'est un autre débat. Ouais. En tout cas, comme tout muscle, il peut être coupé et suturé. Je crois que le plus important, c'est de savoir que... c'est la prise en charge de la cicatrisation qui est le plus important. Peu importe le type de déchirure que vous aurez le jour de votre accouchement, qu'elle soit spontanée, qu'elle soit donc une épisio donc faite par un professionnel de santé, qu'elle soit une déchirure très superficielle de la peau, une déchirure très compliquée avec une atteinte du sphincter anal, je crois que le plus important, c'est comment on va prendre en charge les suites, c'est-à-dire la douleur, et retrouver des fonctions correctes de ce muscle du périnée.
Je voulais savoir si vous arrive de donner des petits conseils, des exercices au quotidien. Simplement, je suis sur ma chaise au bureau. Est-ce que je peux mettre en place des petites choses? Bah, je suis sur ma chaise, tiens, je vais contracter.
Il y a deux cas de figure. Il y a ce cas de figure de la patiente qui a des problématiques urinaires avec des pesanteurs, des fuites, des problématiques de périnée peu contracté, qui est un peu mou, et bien là, oui, on va pouvoir mettre en place des exercices de contracté du périnée, et là, on va s'aider de la respiration, c'est-à-dire que la patiente, elle va inspirer, elle fait rien de particulier, puis en même temps qu'elle va souffler, elle va engager son périnée, Elle va serrer son périnée le temps du souffle et à l'inspiration d'après, elle va le relâcher. Et cet exercice, elle va pouvoir le faire par série de 10 et ça, 2-3 fois par jour. Ça peut être très intéressant dans un contexte de rééducation d'un périnée hypotonique. Et là, on ne parle que de périnée, on ne parle pas de vessie. Et à l'inverse, on va avoir des patientes qui sont douloureuses avec des périnées trop contractées. Et là, j'engage les patientes à faire l'exercice avec la respiration inverse, c'est-à-dire qu'en même temps qu'elles vont inspirer, elles vont serrer, et en même temps qu'elles vont souffler, elles vont relâcher. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que le périnée, c'est je le travaille sur le temps du souffle. Soit je dois le contracter et donc je serre sur le temps du souffle, soit je dois le relâcher et je relâche sur le temps du souffle. Mais ça, ce sont des choses qui sont à faire ponctuellement pendant un temps de rééducation pour retrouver un périnée mobile et efficace et compétent qui sait se contracter et se relâcher dans toutes les situations. Tous les jours, on a un moment où on met une pression sur notre périnée. Et bien à ce moment-là, le périnée doit être starter de l'effort.
J'ai beaucoup aimé cette expression-là, starter de l'effort. Je trouve que ça fait un peu tilt dans la tête de se dire, tiens, c'est mon starter, c'est vraiment mon début d'effort. Et ça, c'est important. Même si des fois, ben, on va avoir un fou rire, on va avoir envie d'éternuer, on va essayer de le contracter en amont. Mais voilà, le starter de l'effort, c'est une très, très bonne expression qu'on espère, voilà, vous allez retenir. Donc, on va conclure notre épisode du jour consacré au périnée avec Camille. Et comme on le fait, donc on aime bien le faire à notre habitude, c'est poser aux professionnels de santé, en fait, deux petites questions. Donc, à savoir, où est-ce que vous, Camille, ça vous est arrivé ou ça vous arrive au quotidien d'avoir des questions un peu taboues, mais que vous n'osez pas poser à votre pharmacien. Et quel est votre secret, du coup?
Alors, je suis comme vous, humaine, et donc évidemment, j'ai des tabous. Et évidemment, je garde mes tabous pour moi. Donc, je crois que je n'aurai aucun conseil à donner, si ce n'est peut-être de prendre le temps et d'essayer de trouver des réponses à ces questions taboues, peut-être par d'autres biais, pas directement par le pharmacien, mais peut-être effectivement soit par des lectures, des podcasts, des études scientifiques, voilà. Mais le tabou reste humain.
Exactement, et c'est pour ça aussi qu'on est là, pour vous aider, pour répondre à vos questions les plus taboues. Et donc, autre question, Nat, je te laisse la poser.
Camille, quel est votre secret de santé que vous délivreriez à tout le monde, que vous faites vous-même?
Alors, vous avez bien compris que mon champ d'action quotidien, c'était le confort vulvaire et périnéal. Donc, je vais vous donner un conseil sur ce domaine-là, puisque c'est le domaine que je maîtrise. Il faut comprendre une chose, c'est que pour avoir une vulve en bonne santé, il faut avoir une vulve hydratée, bien lubrifiée. Et mon adage que je donne souvent, c'est vulve heureuse, vulve soyeuse. Pour avoir une vulve soyeuse, l'idée, c'est d'avoir soit de bonnes sécrétions. Donc, si vous êtes confortable dans votre vulve au quotidien avec les sécrétions que vous avez, c'est parfait, rien à faire. Si jamais vous sentez que vous êtes inconfortable sur cette vulve, il ne faut pas hésiter à apporter un hydratant qui peut être une huile végétale, une crème à l'acide hyaluronique ou une crème aux œstrogènes si besoin. En tout cas, parlez-en avec votre professionnel de santé parce que la vulve doit être confortable au quotidien et dans la sexualité.
C'est super. Ouais, c'est un super conseil. Merci beaucoup, Camille. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'aurait pas forcément abordé. Donc, merci beaucoup pour ce conseil. Et merci encore une fois vraiment pour votre expertise et votre science sur ce sujet-là.
Bah écoutez, merci à vous de m'avoir laissé discuter de ce sujet qui me tient à cœur.
Ce podcast vous a été présenté par easypara.fr, votre parapharmacie en ligne. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. À très vite.